Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Le seul recensement linguistique en Algérie, je crois que c'était en 1976, où justement il demandait, enfin il posait des questions par rapport au recensement, et puis un vieux kabyle aussi, donc a bien écouté les questions et bien regardé les cases, et il a dit mais il n'y a pas de cases pour les kabyles. Donc ils ont dit, l'intervieweur a dit, mais non, il n'y a pas de case pour le kabyle. Ah ben le vieux, il a dit, ah ben alors dites que je suis muet, hein, que je ne parle pas. Parce que moi je ne parle aucune des langues que vous m'avez citées. Je ne parle que le kabyle, et le kabyle n'est pas là-dessus. Le berbère n'est pas, il n'y a pas de case pour le berbère. Donc finalement, moi je suis considéré comme ne parlant pas.
سمي ذي ثلاث فرنوس عفو اخشش ذاك وسوذا مضيم ذاك وجير وريالي
Bonjour, Djiga Douyar.
Bonjour.
Alors, vous êtes né en Algérie, en Kabylie, en 1941, et vous avez donc connu l'Algérie coloniale française, la guerre d'indépendance, les premières années de l'indépendance. En 1969, vous quittez l'Algérie pour la France, et vous vous installez à Nantes avec votre mari, médecin coopérant français, rencontré là-bas et avec qui vous vous êtes marié. Vous devenez, bien avant le printemps berbère de 1980, en Algérie, vous devenez une militante pour la cause amazigh, pour la culture berbère. Alors vous allez nous raconter cette vie qui a traversé de grands événements de notre histoire contemporaine et qui, avec votre engagement pour la cause amazigh, est au cœur d'une problématique algérienne essentielle, mais pas que, parce que c'est aussi la problématique des cultures empêchées, combattues par des pouvoirs centralisés qui haïssent la diversité.
Oui, et donc moi je dirais que j'ai vécu, oui, en effet, tous ces épisodes-là. Donc je dirais que dans ma vie, il y a eu trois phases. Qu'une phase, insouciante pendant mes années de primaire, et une phase turbulente pendant la guerre d'Algérie, et une phase de prise de conscience après l'indépendance, d'où donc mon engagement plus tard pour la berbérité. Oui, c'est vrai que les minorités ont toujours été marginalisées. Je ne sais pas si elles sont haïes, mais en tout cas marginalisées et combattues.
On pourrait tenter de raconter votre vie au travers de ces trois chapitres finalement que vous nous proposez, l'insouciance, les turbulences et la prise de conscience et le militantisme.
Je suis née à Aïtiani, dans le village Aït Larba, en Kabylie.
Qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou.
C'est cela. Enfin, en fait, les Français avaient divisé ce territoire kabyle. Pour nous, ça n'a pas de sens, petite Kabylie et grande Kabylie, ça n'a pas de sens, c'est la Kabylie. Mais ils avaient rattaché la petite Kabylie à Constantine et la grande Kabylie à Alger. Mais pour nous, il n'y a pas de séparation, c'est la Kabylie. Et donc, pendant mes années de primaire, période de l'insouciance, nous ne nous sentions pas du tout colonisés, en fait, puisque nous n'avions que les pères blancs et les sœurs blanches chez nous. Donc, les Français, ça, bon, pour moi, c'était pas un problème. Les écoles ont été créées à partir de 1898, date des créations des pères blancs et des sœurs blanches. Il y avait que ces écoles-là, de toute façon. Donc, bon, pour les filles en particulier, toute ma scolarité de primaire s'est passée chez les sœurs blanches. Chez les pères blancs, les garçons pouvaient aller jusqu'au brevet élémentaire et puis après, donc ils terminaient leurs études ailleurs. Mais pour les filles, il n'y avait pas de collège, en fait. Les filles s'arrêtaient au certificat d'études primaires. Et me concernant, j'étais tombée sur mon enseignante du cours moyen deuxième année, qui avait repéré que je pouvais faire des études, donc elle avait écrit à mon père, lui disant que, bon, en gros, je veux pas me lancer de fleurs, mais votre fille est assez douée pour faire des études. Je sais que vous avez les moyens financiers de lui faire des études, mais il fallait que je parte loin de chez moi, dans un village, un autre village kabyle, mais quand même, il aurait fallu que je sois interne. Donc, mon père m'avait... parce que mon père ne travaillait pas en Kabylie, en fait. Il était commerçant. Il était à Turgot, donc dans l'Oranie. Donc, mon père, au lieu de répondre à mon enseignante, m'avait envoyé une lettre à moi, d'abord. Donc, en faisant deux colonnes, je l'ai gardé longtemps, en disant, si tu fais des études, il n'est pas question que tu t'arrêtes avant d'avoir terminé. Donc, il se passerait telle ou telle ou telle chose, tu vas être interne. Je suis d'accord pour payer l'internat, en tout cas. Je suis d'accord pour que tu partes du village. Et puis, si tu décides, toi, de ne pas faire d'études, tu vas te marier, sans doute pas tout de suite, parce que bon, lui, il n'était pas pour les mariages précoces, mais il va se passer ceci ou cela. Donc moi, je n'avais pas réfléchi longtemps, j'avais répondu à mon père que je voulais faire des études, et donc il a, à ce moment-là, répondu à mon enseignante que oui, il pouvait m'inscrire à l'internat, ça aurait été à Azazga, du coup.
Donc vous aviez votre père, votre mère, et combien de frères et de sœurs ?
Une sœur. Ma sœur aînée à ce moment-là, parce que mes deux autres sœurs sont nées un petit peu plus tard. Enfin, celle qui vient après moi est née en 53, donc elle était vraiment toute petite au moment de la guerre, donc la famille n'était pas très très élargie.
On va maintenant rentrer dans la deuxième phase de votre existence, celle que vous appelez la phase des turbulences, de 13 ans, début de la guerre, à 22 ans. Donc on rappelle Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954, est-ce que pour vous ça évoque des souvenirs précis ?
Ça évoque des souvenirs précis, pas tout à fait au mois de novembre 54, mais un petit peu plus tard, puisque là, du coup, c'est là que je mettais mon internat au conditionnel. Comme un des cousins germains de maman était au maquis, déjà, donc il avait envoyé sa maman, qui était donc la tante maternelle de maman, pour lui dire qu'il fallait pas qu'il m'envoie à l'école, que l'école française c'était fini, donc il fallait plus que je continue l'école. Donc maman, évidemment, avait... Mon père n'était pas en Kabylie à ce moment-là. C'était maman qui avait pris la décision de ne plus m'envoyer à l'école.
Il s'agissait en fait de boycotter l'école des colons, l'école de l'autorité coloniale.
Oui, oui, tout à fait, c'était tout à fait cela, oui, oui. Mais l'école a quand même continué encore pendant une année ou deux, et puis après elle avait été fermée complètement. Moi, je l'avais vécu comme un traumatisme dans la mesure où je devais aller plus loin. Et donc, moi, du coup, il n'était plus question que j'aille à l'internat, puisque je ne pouvais même pas aller dans cette école de Sœurs Blanches pour continuer. Donc, j'avais passé mon examen d'entrée en sixième. Je devais aller à l'internat, je ne suis pas allée. Mais les Sœurs avaient mis un dispositif pour moi. C'est pour ça que j'ai gardé vraiment une grande sympathie pour les Sœurs Blanches en général et cette institutrice donc de cours moyen deuxième année. Donc elle m'a porté des devoirs chez moi, je les faisais, elle les corrigeait. Donc de la sixième quasiment jusqu'à la troisième, j'ai fonctionné comme ça avec les Sœurs Blanches. Donc tant que papa était là, c'était lui qui payait les Sœurs Blanches. Et puis je suis vraiment très très reconnaissante par rapport à cela. Même à partir du décès de papa, elles ont continué. Même à partir de 57, elles ont continué. Comme maman ne pouvait plus payer... Au décès de mon père, on avait tout perdu, même ses avoirs bancaires. Donc on avait tout perdu. Il n'était pas question que maman continue à payer les Sœurs Blanches, mais elles ont quand même continué à me ramener des devoirs et puis à les corriger. Et puis voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma scolarité en fait de collège, quoi. Et puis en 59, je suis allée à Michelet, du coup, loin de chez moi encore, pour faire des études d'infirmière. Là encore, c'était des Sœurs Blanches, en fait, parce que c'était l'hôpital tenu par des Sœurs Blanches à Michelet. Donc j'avais commencé mes études d'infirmière à Michelet. J'avais 18 ans. Et puis donc, mes études d'infirmière, 2 ans à Michelet, et puis j'avais fait le diplôme d'État à Alger.
Donc votre père qui ne vit pas toute l'année avec vous, puisqu'il a une activité de commerçant assez loin, parce que Oran, c'est assez loin.
Oui, c'est tout à fait à l'opposé de la Kabylie. Oui, la Kabylie est à l'est, Oran est à l'ouest. Il exerçait depuis longtemps, en fait. Les Kabyles partaient beaucoup de la Kabylie. Et donc, lui avait fait des études aussi, mais il avait dû arrêter assez tôt, parce que ses parents étaient vieux, et que lui, mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc ils avaient leur terre, ils vivaient de leur terre, et donc lui n'était pas du tout branché sur les activités agricoles. Donc il était chez les Pères Blancs, lui, du coup, à ce moment-là. Donc il avait arrêté ses études pour aller travailler d'abord avec un cousin du côté de l'Oranie, et puis après il avait créé son propre commerce, et il avait en 57, il avait 7 personnes qui travaillait avec lui, donc son commerce était bien développé.
Et cette vie-là, hein, de Kabyles qui doivent quitter la Kabylie pour aller travailler ailleurs, c'était assez fréquent ?
Ah oui, c'était tout à fait fréquent, oui. Oui, ils allaient au Alger, ou à Tizi Ouzou, dans l'Oranie, beaucoup dans l'Oranie aussi. Les Kabyles hommes partaient, mais les familles restaient en Kabylie. Donc ça, c'était vraiment la norme. Donc maman, il n'était pas question qu'elle suive, dans la mesure où les familles ne bougeaient pas de Kabylie, en fait. Les hommes partaient travailler ailleurs, quel que soit cet ailleurs, mais les familles restaient en Kabylie. Donc on était vraiment restés Kabylo-Kabyle.
Votre père était assez proche du mouvement de Ferhat Abbas.
Oui, en fait, nous on le savait pas. On ne savait pas du tout pendant la guerre d'Algérie que mon père était impliqué politiquement. Parce qu'en fait, nous avions su plus tard, enfin nous les filles, parce que maman le savait, qu'il était, il avait fait la deuxième guerre mondiale. Il était caporal dans l'armée française, ce qui n'était quand même pas rien à ce moment-là pour ce qu'on appelait des indigènes. Donc il avait fait l'armée française, et en principe, après la deuxième guerre mondiale, il était question que de donner la nationalité française, parce qu'on ne l'avait pas à ce moment-là, aux combattants, ce qui n'a pas été fait. Donc mon père trouvait ça déjà un peu curieux de pas avoir que ce processus n'est pas abouti. Donc du coup, mon père a commencé, finalement, on l'a su plus tard, a commencé à militer dans ce parti politique de Ferhat Abbas à partir de 46-47, quoi. Mais il militait, en fait, dans l'Oranie. Il avait vraiment cloisonné sa vie, en fait, pendant la guerre d'Algérie aussi. Nous, on ne ne savait absolument pas du tout qu'il était impliqué politiquement. Et quand il avait été fusillé par l'armée française, je n'étais pas en colère contre l'armée française, j'étais en colère contre mon père. Parce que je trouvais que ce n'était pas, c'était pas sa guerre. Moi, je me sentais pas impliquée en dehors de mes études qui avaient été interrompues et que j'ai pu continuer quand même malgré tout. La France, pour moi, c'était pas un problème, quoi, à ce moment-là. Et donc, je ne savais pas du tout qu'il était engagé politiquement au point donc d'avoir été arrêté, non seulement arrêté, mais fusillé au bout de 6-7 jours. Donc quand on a su en Kabylie qu'il avait été fusillé, on était en train de voir, parce qu'on avait eu la nouvelle par un cousin lointain qui nous avait dit qu'il était en prison, donc on était en train de chercher un avocat pour le défendre. Mais en fait, on n'a même pas eu le temps de le défendre, il avait été fusillé avant. Et semble-t-il, quand les autorités françaises du lieu, donc de l'Oranie, ont su qu'il avait été fusillé, ils étaient rentrés dans une rage folle en disant: comment avez-vous pu fusiller un ancien combattant français? Donc, mais pour nous, bon, de toute façon, pour nous, c'était fini, quoi. Il avait été fusillé, puis c'est tout. Il n'a même pas été enterré chez nous. Et c'est là, en fait, c'est après que moi, j'ai découvert qu'il était politiquement... je me souviens encore de maman qui sont pressées de brûler tous les papiers parce qu'elle avait peur, du coup, des représailles chez nous, parce qu'elle était au courant, forcément. Donc, elle brûlait tout. Il avait une arme. Elle a été cachée l'arme pour pas qu'on la découvre. Couvre la maison. Donc là, c'était vraiment un épisode tout à fait dramatique pour nous. En novembre 57, le 17 novembre 57, exactement. Oui, c'était l'armée française, bien sûr, qu'il avait fusillé. Le prétexte était qu'ils avaient trouvé une arme chez lui dans son magasin. Donc ils l'ont arrêté parce qu'ils ont trouvé cette arme. Et du coup, c'était le prétexte tout à fait trouvé pour pouvoir le mettre en prison, le torturer, parce qu'on a su qu'il avait été pas mal torturé. Là, c'était un épisode extrêmement, extrêmement douloureux quand on a su qu'il avait été torturé et donc fusillé au bout de 7 jours. Et on nous disait que malgré la torture, avec le dos complètement courbé, il soutenait quand même, parce qu'il avait deux personnes de son magasin qui avaient été aussi arrêtées en même temps que lui, mais qui n'ont pas été fusillées. Ils étaient donc libérés après l'indépendance. Et donc, malgré la torture, il arrivait à soutenir les autres en disant il faut tenir, on va s'en sortir. Il faut tenir jusqu'au bout. Je me souviens très très bien, j'avais même fait un poème par rapport à ça, parce que je faisais un petit peu de poésie comme tous les ados et les jeunes. Et donc moi, j'étais chez les voisins, je discutais chez les voisins et j'entendais maman se crier. Du coup, elle venait d'avoir la dépêche, donc c'était un cousin qui nous avait envoyé un télégramme disant qu'il venait d'être fusillé. Ah oui, c'était vraiment très très traumatisant pour nous, oui, c'était vraiment très 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 fort. J'ai un souvenir tout à fait précis de ce moment-là où j'ai entendu maman et je me demandais ce qui se passait. Donc je suis arrivée à la maison, j'avais ma petite sœur qui avait 3 ans, du coup la troisième de la fratrie. Maman était enceinte de 7 mois. Donc on attendait la dernière de mes sœurs, ma petite sœur. Et donc oui, j'ai un souvenir tout à fait précis, traumatisant, oui, qui était quand même... Et puis, comme je vous disais, bon, j'étais en colère, quoi. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il est allé se faire tuer pour ça, quoi? On ne savait pas qu'il était impliqué politiquement depuis tant d'années, donc depuis quasiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je tombais des nues, quoi. À ce moment-là, je n'avais pas 17 ans encore. J'ai pris conscience en fait beaucoup plus tard, hein, parce que là, le traumatisme de guerre, quand surtout j'ai souvenir de personnes, du coup de prisonniers qui revenaient et mes papas ne revenaient pas, donc j'ai pris conscience plus tard. Papa est mort en 57, moi je suis partie en 59 faire des études à Michelet. Donc du coup, j'étais interne chez les Sœurs Blanches à l'hôpital, et du coup je voyais ça aussi d'un petit peu... Pas plus loin et en même temps, très très proche et très impliquée, parce que du fait que mon père, bon là du coup c'était un secret pour personne, mon père était engagé politique depuis des décennies, donc du coup les maquisards de Michelet, parce qu'on appelait ça des maquisards, donc m'avait contacté avec une autre fille qui avait perdu son frère pendant la guerre aussi, qui nous avait contacté pour les aider, collecter de l'argent pour le FLN, du coup, pour le Front de Libération Nationale. Et donc, du coup, j'étais impliquée à ce niveau-là. Et puis, à l'hôpital où je travaillais, on nous emmenait des maquisards blessés aussi. Les Sœurs Blanches avaient quand même beaucoup, beaucoup participé aussi. On était les deux, là, justement, parce qu'elles savaient que nous, on avait perdu des personnes chères pendant la guerre, donc elles pouvaient nous faire confiance. Donc, en tant qu'élève infirmière, du coup, on était sollicitées toutes les deux pour aller aider aux soins des maquisards qu'on nous emmenait de nuit, en fait, puisque, bon, elle était pas question qu'ils les emmènent de jour, donc c'était de nuit qu'on soignait les maquisards.
Est-ce que vous avez un souvenir précis de ce jour d'indépendance ?
Du jour de l'indépendance, oui. Le 5 juillet 62, on était partis de Michelet dans des camions qui réquisitionnés, en tout cas prêtés à ce moment-là. On était allés manifester à Alger. Et donc, c'était vraiment une liesse et une joie vraiment extraordinaire, parce que là, on se disait, ça y est, on est chez nous, on a gagné. C'était vraiment un jour parfaitement inoubliable. On avait défilé avec le FLN, du coup, avec les maquisards qui étaient, du coup, sortis de leur clandestinité. J'ai des souvenirs surtout de grande joie, de grande fierté, parce qu'enfin, on était indépendants, on avait vraiment conscience de cela. À ce moment-là, on n'était absolument pas du tout dans la mouvance, dans la mouvance autre que l'indépendance du pays, du fait qu'on était libéré de la colonisation. Et moi, je n'avais pas conscience, on n'avait pas, à ce moment, je ne me souviens pas de drapeau à Mazir à ce moment-là. C'était d'abord, c'était surtout des drapeaux algériens. Omer chérie, ne te lamente pas. De tes vexations, nous nous souviendrons. À chacun, nous opposerons vengeance. Ô mère courage, ne te lamente pas, et ton cœur ne perde pas espoir. Résiste et souviens-toi que nous libérons l'Algérie. Ô mère chérie, ne pleure pas. Dans la montagne, je veille. Combattant, je monte la garde. Dans le froid, nous résistons, plutôt que de supporter le joug des Français.
C'était Farid Ali, le grand Farid Ali, chanteur et parolier de ce chant kabyle d'indépendance, « Ô mère chérie, ne te lamente pas ». Maintenant, on va passer à la troisième phase de votre vie, c'est la phase de la prise de conscience. Du coup, Djiga, quand vous dites prise de conscience, de quoi s'agit-il en fait ?
Eh bien, donc, comme je disais, j'ai fait les deux premières années d'études d'infirmière. Donc, je faisais des études d'infirmière. C'est pour ça que j'étais à l'hôpital et c'est comme ça qu'on soignait les maquisards. Et donc, prise de conscience parce que la troisième année de mon cursus d'infirmière était à Alger. Donc, le diplôme d'État se passait à Alger. Donc, j'avais passé l'examen d'entrée à l'école d'infirmière. En 63, 22 ans. J'allais avoir 22 ans. Quand je suis arrivée à Alger de ma Kabylie, je n'avais pas conscience à ce moment-là. J'avais même, à partir de l'indépendance, j'avais même acheté des livres en arabe pour me mettre à apprendre l'arabe, puisque pour moi, il y avait deux langues, il y avait le kabyle et puis il y avait l'arabe. Donc, je trouvais intéressant de maîtriser les deux. Et donc, quand je suis arrivée à Alger, je trouvais une atmosphère tout à fait différente. Et il ne fallait pas que je parle kabyle. Et il ne fallait pas que je parle français, parce que le français, c'était la langue de l'occupant, et le kabyle n'était pas choisi comme langue à ce moment-là, c'était l'arabe qui avait été choisi comme langue nationale. Et donc, du coup, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, donc mon père est mort pour que vive ce pays, et je peux pas parler ma langue. Donc, il y avait des chants patriotiques, donc je me faisais expliquer ces chants patriotiques en arabe, et puis il y avait en particulier un chant qui s'appelait pays de nos ancêtres, enfin l'Algérie, Bilad el Joudoud. Donc je me souviens, même si je suis pas arabophone, je me rappelle encore des termes. L'Algérie, pays de nos ancêtres, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut chanter en arabe l'Algérie, pays de mes ancêtres, de nos ancêtres, parce que moi, quand je récitais mes leçons à mon père, qui disait, ben, prends tes leçons parce que je tiens à ce que tu aies de bonnes notes, mais tes ancêtres n'étaient pas les Français. Les Français n'étaient pas du tout tes ancêtres. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me parler de mes ancêtres les Berbères. C'est là que j'ai pris conscience, c'est cette phase-là que j'appelle prise de conscience. On avait payé un lourd tribut dans tous les domaines pour que vive ce pays. Et nous, au niveau familial, on avait payé un lourd tribut aussi, puisque mon père avait été fusillé donc par l'armée française. Et je me disais, comment se fait-il qu'on chante en arabe pays de mes ancêtres, alors que les ancêtres de l'Algérie, m'a dit mon père, c'était les Berbères. Il m'avait pas dit que c'était les Arabes. Donc pour nous, finalement, c'est pas fini, ça va peut-être commencer. Et donc c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et bon, c'est là, c'est à partir de là, donc de 63, que je suis devenue militante pour le Berbère, pour la Mazirité.
En fait, ce que vous nous racontez, c'est la phase d'arabisation puissante de l'Algérie au lendemain de l'indépendance.
Oui, c'était vraiment l'arabisation, parce que c'était l'arabe qui avait été choisi comme langue de l'enseignement. Moi, j'avais fait mon diplôme d'infirmière à Alger. C'était la première promotion d'infirmière algérienne, donc nous étions fiers. Très fière, et puis c'était tant important que c'était Ben Bella à ce moment-là, donc le premier président de la République algérienne, qui était venu à l'école d'infirmières. Donc, du coup, j'avais eu l'honneur à ce moment-là et le plaisir, je l'avais en tout cas à ce moment-là vécu de cette façon-là, de lui faire une bise et de lui offrir un bouquet de fleurs. C'était la toute première promotion, c'était la dernière promotion française et la première promotion algérienne. Donc du coup, c'était vraiment la promotion transition. Donc comme j'étais sortie major de ma promotion d'infirmière, c'était moi qui avais eu cet honneur de présenter un bouquet, de faire une bise au premier président de la République. C'était vraiment quelque chose de très gratifiant, hein. Pour moi, j'étais vraiment fière, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore conscience de ce qui se passait.
Car Ben Bella, on peut considérer qu'il était plutôt justement dans ce mouvement d'uniformisation et d'arabisation, hein.
Ah oui, je l'ai écouté plus tard. Parce que je pense que je n'aurais pas accepté de lui offrir un bouquet ni de lui faire une bise à ce moment-là. Et plus tard, je l'entendais dire « nous sommes des Arabes et des musulmans ». Et donc on n'était que des Arabes et des musulmans, et nous Berbères, on était quoi ? Donc du coup, c'est là que je me suis dit « bon, là, il faudrait vraiment commencer à faire quelque chose ». une chape de plomb et s'était abattue sur la Berbérité. Même les documents qu'on pouvait avoir, on se les communiquait pas de façon de façon visible. Ce qu'on faisait en tant que militant, c'était quasiment clandestin. Donc c'était on risquait du temps de aussi bien de Ben Bella que de Boumediene, c'était assez compliqué. Donc il y avait une prise de conscience, mais pas encore une prise de position.
Nous sommes en 1963, vous avez 21 ans et vous rencontrez celui qui va devenir votre mari.
Je l'ai rencontré en 63 quand j'ai terminé mon diplôme d'état d'infirmière à Alger. Donc il y avait une sœur blanche qui était à Michelet avec moi auparavant. Et donc cette sœur blanche nous avait invités dans l'hôpital où elle travaillait à ce moment-là, où elle exerçait à ce moment-là, et où exerçait mon mari en tant que médecin. Du coup c'était loin de chez moi et loin d'Alger puisque c'était du côté d'Orléansville. Et donc c'est là que j'ai fait la connaissance de mon mari.
Et vous vous êtes mariée en Algérie ?
Non, on s'est mariés en France en fait, puisque parce que en Algérie on pouvait pas marier une Algérienne avec un Français. Donc c'était pas possible. Hein. Donc du coup on est parti. Mon mari a trouvé un remplaçant pour juste le temps donc de venir en France nous marier. Donc on est venu en France nous marier, mais quand même avec la bénédiction de l'Algérie puisque j'avais eu l'autorisation. C'était le consulat c'était à Bordeaux à ce moment-là. Il n'y avait pas de consulat encore à Nantes. Donc non seulement il nous avait envoyé l'autorisation, mais en plus avec ses félicitations. Nous avions beaucoup apprécié. Et donc, on s'était mariés en France, à Nantes, d'où mon mari est originaire. On est reparti tout de suite. Mon mari avait pris juste une dizaine de jours. On a vécu 2 ans aux ATAF, donc dans l'Orléans-Villois. Puis ensuite, on avait vécu aussi 2 ans à Alger. Mon mari, donc, en tant que coopérant, il était médecin pendant la guerre. Il avait fait la guerre, donc appelé, mais il avait fini ses études de médecine. Donc, après l'indépendance, il trouvait que c'était intéressant d'aller aider ce pays à se relever, en fait. Donc, il était allé pour aider l'Algérie. Parce que je pense que s'il n'était pas allé dans cette optique-là d'aide de l'Algérie, je pense que maman, qui avait perdu quand même son mari, fusillé par l'armée française, n'aurait peut-être pas... elle était très, très réticente, évidemment, pour mon mariage. C'était compliqué. Le mariage avec un Français était vraiment très, très compliqué pour maman, pour la famille. Mais du fait que lui était vraiment du côté du coup de l'indépendance de l'Algérie, il était vraiment allé dans le but de pouvoir aider à ce moment-là. Donc, ça a temporisé un petit peu. C'était, disons, plus facile.
Okay. Et vous, même en ayant des enfants, vous continuez votre métier d'infirmière ?
Oui, j'avais continué, oui, aux ATAF en particulier, où mon mari exerçait à ce moment-là. Oui, continué pendant une année. Et puis l'année suivante, j'avais été monitrice d'infirmière. Donc c'était un petit peu plus facile pour m'organiser, pour en particulier ma fille aînée, donc qui était toute petite, je pouvais donc m'en occuper aussi en dehors de mes heures de cours.
Vous avez 28 ans, en 1969, vous décidez finalement avec votre mari et vos enfants de quitter l'Algérie pour aller vous installer dans la région de votre mari, en France, vous installer à Nantes.
Eh bien, dans un premier temps, je ne partais pas pour longtemps. J'avais même dit à maman, on part pour 2 ans parce que mon mari qui avait commencé sa spécialité de pédiatrie devait terminer sa spécialité. Et en tant que pédiatre, il pensait que ce serait plus facile de s'installer en Algérie en tant que pédiatre que généraliste. Et donc du coup, on était parti pour 2 ans. Mais en fait, il s'est associé en arrivant avec un ancien... ami qui avait fait ses études de médecine à Nantes avec lui. Et donc, la clientèle avait démarré très, très vite. Et du coup, il n'avait pas pu terminer sa pédiatrie parce qu'il ne pouvait pas faire les deux choses en même temps. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je m'étais retrouvée définitivement installée en France.
Alors, donc, votre engagement, finalement, il se poursuit en France. Et vous n'avez pas abandonné du tout cette cause, bien au contraire. Et vous avez repris des études pour exercer la profession de psychologue.
Oui, en fait, j'avais fait le choix de faire des études de psychologue parce que je voulais enseigner, en fait. Je voulais enseigner le berbère. Et on m'avait dit que pour enseigner le berbère, il fallait avoir un diplôme universitaire. Le diplôme d'infirmière n'était pas suffisant. Donc du coup, eh bien, je suis repartie à l'université. Du coup, je m'étais dit, en tant qu'infirmière, j'avais fait pas mal de biologie. Donc c'était un volet sur lequel je pouvais éventuellement passer. On m'avait dit qu'en psycho, il y avait de la biologie aussi. Donc je me suis engagée dans des études universitaires, normalement juste pour avoir une licence, parce que ça me suffisait pour enseigner du coup le berbère, ma langue. Et puis, arrivé en licence, bon, je trouvais ça très très intéressant. Du coup, j'avais continué jusqu'au DESS. Et donc, je suis devenue en fait psychologue pour pouvoir enseigner le berbère. Mouloud Mamri m'avait fait un certificat pour enseigner le berbère à Nantes. Mais il n'y avait pas suffisamment d'inscrits pour la langue berbère à l'université. Donc, je n'ai pas pu, du coup, enseigner le berbère à l'université. Il n'y a pas eu de chaire de berbère, je trouvais ça dommage, à l'université de Nantes. Et du coup, eh bien, je l'ai enseigné au niveau associatif, parce que notre association fonctionnait déjà. L'association que nous avions appelée Association culturelle Amazir, j'avais rassemblé 5 amis berbérophone, et donc on l'avait créé en juin 1990 pour pouvoir promouvoir et faire connaître la langue berbère à Nantes. Donc depuis 90, donc j'ai enseigné le berbère, le kabyle, et j'ai enseigné le chleur aussi, qui est un berbère du Maroc.
أمي كان يوغل ذي الحبس ومران وزال مثل الطفل وذبورا أمي كان يوغل ذي الحبس ومران وزال مثل الطفل وذبورا ما تنسى والقرن غما ذا غدرنا والسوس مثل سكودين الله ما تنسى والقرن غما ذا غدرنا والسوس مثل سكودين الله أما شهور غفت مقرط ما يرسل موسي في ذتمت تفغيني أما شهور غفيني كان قروس ورستقس المتناشيم أما شهوب غفت مقط ما يرسل موسي في ذتمد تفغيم أما شهوب
Nos terres sont devenues prisons garnies de fer, dont enferment sur nous les portes. Quand nous appelons, ils disent Quand ils répondent, puisque nous sommes là, taisez-vous. Il était une fois. Quand le couteau est sur la gorge, la bouche peut-elle proférer la vérité? Tout ce qu'on nous a conté, les chemins qu'on nous a montrés, nul ne sait où ils mènent. Ils ont tout arrêté entre eux, tout réglé de notre sort. Eux savaient et nous ne savions pas.
C'était « Il était une fois », une chanson écrite et interprétée par le grand Lounis Ait Mengelet, une chanson qui parle de la désillusion après l'indépendance. On va revenir un petit peu en arrière. On a parlé là à l'instant de Mouloud Mamri. Mouloud Mamri, c'est une référence. C'est un écrivain, un grand intellectuel, kabyle.
Oui, 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 c'était un grand écrivain, ethnologue, écrivain francophone. Hein, il a écrit pas mal de livres, en particulier La colonne oubliée, qui parlait justement de sa colline de Tawirt-Mimoun, donc dans ma commune. Et oui, c'était vraiment une grosse pointure francophone et kabylophone. Je le connaissais personnellement, donc c'était lui qui m'avait, comme je disais, fait un certificat attestant que j'avais suffisamment de maîtrise du kabyle pour pouvoir enseigner le kabyle, donc le berbère en général, à l'université.
Et c'est un personnage aussi très important historiquement, car contre son gré, il est l'étincelle du printemps berbère. Alors on rappelle les faits, hein. Nous sommes en le 10 mars 1980. Mouloud Memri est invité à l'université de Tizi Ouzou pour faire une conférence sur des poèmes anciens kabyles.
Oui, les poèmes, oui, le petit, il devait donner une conférence sur ces poèmes de Si Mohand Mohand. Et donc, il avait été intercepté par les autorités, hein, que pourtant il n'y avait rien de subversif. Enfin, pour lui, il était déjà engagé, mais il ne pensait pas que des poèmes pouvaient soulever un tel tollé, ni avoir l'interdiction de donner une conférence à ce propos, quoi.
Eh bien, c'est le début du printemps berbère, ce qu'on appelle le printemps berbère, printemps parce que il a lieu pour l'essentiel, donc là on parle du 10 mars 1980 et sa conférence qui était interdite avec des ordres qui sont venus, c'est très clair, d'Alger.
Ah oui, des ordres qui étaient venus d'Alger, oui, il est parti d'Alger, il avait été intercepté entre Alger et Tizi.
Eh bien, après ça va se dérouler au mois d'avril 1980 surtout, eh bien ce qui va se dérouler c'est ni plus ni moins que le plus grand mouvement d'opposition au gouvernement depuis l'indépendance.
Oui, c'était vraiment là, ça mûrissait depuis l'indépendance, comme je vous disais. Donc il y avait pas mal de déjà la prise de conscience, comme pour moi, quand tous les Kabyles avaient pris conscience que finalement, pour eux, comme je vous disais, moi en 63, je me disais finalement, pour nous, c'est pas fini. Ça, mon père est mort pour que vive ce pays, mais pour nous, c'est pas fini. Le combat pour la langue et pour ce que nous sommes va continuer. Donc la prise de conscience avait été prise avait été de longue date, mais c'est là que le peuple kabyle est descendu en masse dans des villes et des villages pour dire stop, nous avons une langue, nous avons une culture et nous avons l'intention de vivre dans notre langue et dans notre culture. Il y avait des choses extrêmement cocasses en fait, parce que par exemple dans les tribunaux à Tizi Ouzou, les juges étaient kabyles, les avocats étaient kabyles, les personnes qui étaient là pour être jugées donc étaient kabyles, mais il fallait un interprète en arabe pour circuler entre tous ces gens qui étaient kabylophones en fait. Donc là, le printemps 80, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Les kabyles se sont dit bon ben c'est bon, on peut pas continuer comme ça quoi. Donc il y avait eu vraiment non seulement là une prise de conscience puisqu'elle est ancienne, mais une prise de position.
Ça se traduit par des occupations de lieux officiels, des manifestations, des grèves, des émeutes. Ce sont des événements violents avec des victimes.
Ah oui, oui, tout à fait violent. Oui, bien sûr. Et puis pas mal de leaders de ce mouvement qui avaient été emprisonnés à ce moment-là. La Kabylie était en état de siège. Moi, je n'étais pas là-bas, mais on avait des échos et donc on avait relié ici de France ce mouvement qui était quand même un mouvement de masse. C'était vraiment la première fois que l'Algérie prenait conscience de ce phénomène, quoi. C'était vraiment un vaste soulèvement et l'Algérie n'avait jamais vu ça auparavant puisqu'on était sous boisseau.
En tout cas, c'est l'épreuve de force. On ne peut pas dire que du côté du gouvernement, qu'on soit dans la conciliation, bien au contraire, puisque le président, c'est Chadli qui est président à ce moment-là, il se fonde une déclaration disant l'Algérie est arabe et musulmane, c'est-à-dire qu'on considère que ce combat, cette revendication berbère est une revendication de désunion. C'est en fait l'argument qui est asséné à longueur de temps par le gouvernement arabe d'Alger.
Oui, ils nous considéraient comme des séparatistes déjà, oui, donc oui, c'était le choix avait été fait à l'indépendance d'enseigner en langue arabe, de tout arabiser, tout était arabisé à partir du premier gouvernement algérien, du coup, à partir de Ben Bella, oui. Et donc ça a été vraiment, une découverte, en fait, une découverte du phénomène berbère par les autres régions.
Alors c'est à double détente, parce que du coup, pour le gouvernement à Alger, c'est une surprise. Et le gouvernement, et même s'il joue les fiers à bras, est quand même très interpellé, déstabilisé par ce mouvement qui est massif. Et à double détente aussi pour les Berbères, pour les Kabyles, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a une structuration du mouvement, on pourrait dire, avec la naissance du mouvement culturel berbère, un mouvement très important, et également de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme.
Ah oui, c'est là quand même qu'on a commencé à se dire que peut-être que cette langue fait partie du pays. Et donc, il y a un avant 80 et un après 80. Et un après 80, c'était quand même, du coup, on a pu dire publiquement, ouvertement, revendiquer notre langue et notre culture qui n'était pas la langue arabe et qui n'était pas la culture arabe.
En fait, il n'y a pas eu un printemps berbère, il y a eu d'autres, il y a eu des répliques. Alors, il y a notamment cette grève dite des cartables de 1994 et 95. Un boycott, en fait, de l'école et de l'université.
De l'école en général, oui, surtout de l'école, oui, l'école primaire. C'est pour ça, la grève du cartable, ils ont décrété que pendant une année, tant que les enfants berbères étaient enseignés dans une langue qui n'était pas la leur, qui était une langue étrangère pour eux, eh bien, ils n'iraient plus à l'école. Donc ça a duré une année. À chaque étape, en fait, on débouche sur une amélioration de la situation, mais on est encore loin du résultat qu'on pouvait espérer avec tous ces mouvements.
Autre réplique, en 1998, c'est à la suite de la mort, enfin de l'assassinat de Lounès Matoub.
Oui, tout à fait, parce que Lounès Matoub disait ouvertement et crûment ce que les Kabyles parfois n'osaient pas dire, et lui, il osait vraiment dire les choses tout à fait ouvertement, et c'était un grand militant pour la cause berbère, il n'avait peur de rien, donc c'était vraiment quelqu'un de très 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 courageux, et je me souviens de ses premières apparitions pour chanter en Kabyle à Paris. Il était habillé en para, c'était un petit jeune militant kabyle, du coup, qui chantait des chansons pour défendre la berbérité.
Et puis un autre printemps berbère, celui qu'on a appelé le printemps noir, parce qu'il a fait quand même au moins 40 victimes, 40 morts. Il a lieu en 2002, avril-mai 2002, et avec des gendarmes sur place qui sont ultra répressifs.
Ah oui, des victimes, oui, il y en a eu exactement 122. Des victimes, oui, et c'est là qu'il y a eu une grosse répression, oui, de des assassinats, on ne peut pas appeler ça autre chose que des assassinats.
À la suite de ce printemps noir, il y a l'émergence d'un mouvement, un kabyle, qu'on appelle le MAC, Mouvement pour l'autonomie, et là, les mots sont importants. Mouvement pour l'autonomie, il s'agit d'une il s'agit d'une revendication d'autodétermination et le projet de constituer l'Algérie en une fédération.
Ah oui, absolument. Oui, mais ça, l'idée de fédération n'est pas que kabyle, en fait, parce que les régions d'Algérie sont assez différentes et différenciées. Oui, une fédération, ça aurait été une bonne solution pour toute l'Algérie, pour les autres régions aussi, même si ce n'est que la Kabylie qui revendique l'autonomie. Et donc, c'était un mouvement autonomiste qui n'aurait consisté que en autonomie linguistique, pouvoir enseigner dès le primaire, de primaire, secondaire et supérieur, le kabyle, et non plus, même si l'arabe aurait été enseigné aussi, mais du coup en deuxième langue, le kabyle aurait été enseigné à tous les niveaux. Et revendication culturelle aussi, la culture berbère, du coup la culture berbère en général, pas que kabyle, parce que en Algérie, il n'y a pas que la Kabylie comme berbérophone.
Il se déclarait d'ailleurs le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, pour un État démocratique, social et laïque.
Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, nous, en Kabylie, de tout temps, on a vraiment séparé le religieux du social. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de problème religieux. Il y avait en Kabylie des chrétiens et des musulmans. Mais pour nous, ce qui nous rassemblait, c'était notre kabylité. Il n'y avait pas de problème entre les kabyles chrétiens et les kabyles musulmans. On était musulmans, on ne pratiquait pas comme on veut nous faire pratiquer actuellement, par exemple. Mais la foi était vraiment très, très profonde.
Est-ce que le MAC est toujours un parti très représentatif, en fait, du mouvement kabyle?
Oui, 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 le MAC continue à revendiquer la langue, qui continue à revendiquer l'autonomie, qui continue à revendiquer la culture berbère. Il y a beaucoup de militants du MAC qui sont encore en prison depuis le Irak. Il y a eu une autre création avec Farhat Mehni en particulier et d'autres, il n'est pas le seul, donc qui ont essayé de créer un mouvement indépendantiste. Et donc du coup c'est les GPK, oui, gouvernement provisoire de la Kabylie. Et c'est Farhat Mehni qui en est président. Et il y a un bureau aussi, il y a un ministère, il y a des ministres. Ses membres sont à Paris. Ils sont même interdits de séjour en Algérie, ils ne peuvent pas retourner en Algérie.
Toute cette violence, toutes ces victimes, ça quand même entraîne quelques avancées, peut-être plus symboliques qu'autre chose. Le gouvernement lâche un peu de lest. En mars 2002, la langue tamazir devient langue nationale.
Oui, oui, elle devient langue nationale, en fait, plus sur le papier qu'autre chose, quoi. Hein. Mais c'était une énorme avancée, en effet. Du coup, on a pu l'enseigner ouvertement, parce que jusque-là, on l'enseignait, mais on ne l'enseignait pas de façon officielle. Et donc, elle avait été enseignée dans 46 préfectures, wilayat, pas simplement en Kabylie, mais aussi dans les autres régions berbérophones, et aussi à Alger.
Et depuis 2016 d'ailleurs, la langue tamazir est elle est reconnue comme langue nationale, mais même reconnue désormais comme langue officielle.
Et ça, ce sont de grandes avancées. Elle est enseignée de façon marginale quand même, puisque la langue arabe reste la langue, je dirais, officielle. Parce que la langue berbère est quand même est secondaire par rapport à la langue arabe.
On va venir maintenant sur votre activité à Nantes en tant que militante amazigh. Vous êtes la fondatrice et présidente de l'Association culturelle berbère de Nantes. Présidente, vous l'avez été pendant 23 ans.
Eh bien, oui, nous l'avions créée en 90, au lendemain de 89, parce qu'en 1989, c'est la création du parti politique RCD, donc qui est mon parti, Rassemblement pour la culture et la démocratie. C'est à ce moment-là qu'il avait été possible aussi de créer des associations étrangères, entre guillemets, en France. Et donc, nous avons créé, oui, cette association pour non seulement enseigner le berbère, mais aussi porter au vu et au su de tous, d'une part, la revendication et puis la particularité de cette langue ancestrale, c'est quand même la première langue d'Afrique du Nord, pour pouvoir rassembler les Kabyles et les Berbères en général, les Berbères du Maroc qui sont venus participer à l'association. Et elle est encore officiante. Hein.
Et vous êtes même au sein d'une structure fédérale, la Fédération des associations amazighes de France.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mmh. En fait, j'ai fait partie de tout le début des structures qui revendiquaient la reconnaissance de l'amazighité et de la particularité des amazighes.
Vous êtes aussi en lien avec l'ONU et l'UNESCO en particulier.
Tout à fait, oui, oui. Donc c'est par le biais du congrès mondial amazigh. Le congrès mondial amazigh a lieu tous les 3 ans.
Le berbère, c'est une langue, plus exactement, ce sont des langues. 27 langues berbères, en fait, qui ont une racine berbère. Certaines sont des langues mortes désormais, ce qui représente à peu près 20 à 30 millions de locuteurs dans le monde. Et il y a une assez grande diversité. Il y a, par exemple, tous les berbères du Maroc, avec le parler ou la langue donc berbère, mais qu'on appelle chleu, tamazir et le rifin également.
Oui, 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 tout à fait. Même en Algérie, on a quatre langues. On a le Touareg, qui est la langue donc du Hoggar. On a la langue de l'Aurès. On a la langue
qu'on appelle le Chaoui.
Oui, ça c'est Chaouis, oui. Et le Chinoui aussi, qui est la langue de la région de Tipaza.
Et le Kabyle.
Et le Kabyle, je termine par la mienne. La langue berbère, comme toute langue vivante, elle vit, et puis elle se transforme, et puis elle prend des particularités. Le berbère est un, mais il y a des divergences et quelques différences, surtout du point de vue de l'oralité, puisque en ce qui concerne l'écrit, donc nous avons un alphabet berbère, donc nous continuons à écrire avec cet alphabet. Que nous, on l'a toujours écrit ou en kabyle, ou en tifinagh. Le tifinagh, c'est le berbère, hein, l'alphabet berbère. Nous écrivons, en fait, les caractères représentent tous les sons de l'amazighité. On pourrait confondre avec les lettres grecques, quand on connaît bien cet alphabet, quand on voit cet alphabet et qu'on essaye de comparer justement avec l'alphabet, l'ancien alphabet grec, on s'aperçoit que, les caractères peuvent parfois se ressembler, mais ils ne sont pas tout à fait identiques. Mmh. Et ces caractères berbères, amazighs, sont antérieurs à la langue grecque. Le berbère existe avant tous nos autres envahisseurs, avant les Grecs, avant les Romains, avant les Phéniciens. C'est pas récent. La revendication est récente parce que du coup, à partir du moment où l'arabité avait été prise comme option, les berbères ne s'y retrouvant pas, nous sommes retournés vers les sources. Je pense que nous sommes des gens relativement raisonnables. On ne demande pas la disparition de l'arabité ni de l'arabe. Hein, on voudrait juste que les deux langues soient sur le même plan, qu'il n'y ait pas une langue qui prenne le pied sur l'autre.
Merci beaucoup Djiga Ougad Douyar, merci beaucoup pour cet entretien et vous gardez le lien avec l'Algérie.
Je garde un lien très très fort, oui absolument, avec l'Algérie, avec la Kabylie. Mes 3 sœurs sont à Alger et notre fief c'est plutôt la Kabylie, la maison familiale haïtienne où je suis née. Et je voudrais, si vous le permettez, terminer par que justement Mamri, que nous avions cité tout à l'heure, donc il disait, quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que mon peuple, et à travers lui les autres, ira. L'ignorance, les préjugés, l'inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement, mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l'on distinguera la vérité de ses faux-semblants. Tout reste n'est que littérature. Et ça, c'était Mamri, un grand monument de la berbérité.
Quand t'es goulé,
On termine comme on a commencé, avec Tella, la magnifique composition de Jamel Allen. C'était Jiga, une réalisation du guide du Bordeaux colonial, Rendez-vous décolonial, La clé des ondes, Bordeaux, décembre 2023.